Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission C'est de la locale. Ce soir, la Mystery Machine continue d'être dans l'Orne, dans ce magnifique département, pour la suite du Mystery Machine Summer Tour. Aujourd'hui, la Mystery Machine est garée à Mortagne, au Perche. Cette ville de près de 4000 habitants, même 8000 si l'on compte la périphérie. Mortagne se trouve à l'est d'Alençon, à 30 minutes en bagnole et 28 minutes si vous êtes dans la Mystery Machine, parce que la Mystery Machine a toujours un temps d'avance. Mortagne, j'espère que vous êtes au courant qu'il y a plein de choses à faire. C'est une petite cité de caractère avec son patrimoine historique en libre visite partout dans la ville. C'est assez génial. Le musée d'Alain, d'ailleurs, et de quel Alain parle-t-on ? On parle bien de Émile Auguste Chartier, dit Alain. Il est né en mars 1868 à Mortagne-au-Perche et c'est un philosophe qui émerge dans l'entre-deux-guerres comme une figure emblématique du pacifisme de gauche. Il s'illustre ensuite comme un intellectuel dans les dernières décennies de la Troisième République par une forme de journaliste philosophique, notamment à travers 5000 propos publiés quotidiennement dans la presse 1906-1936. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris de lui sur sa fiche Wikipédia. J'espère que ça vous a plu parce que je pense qu'on n'en parlera plus beaucoup. Mais en tout cas, Alain, figure emblématique de Mortagne-au-Perche. Pour ce qui est des autres personnages connus de Mortagne-au-Perche, difficile de ne pas citer Jean Gabin, qui a connu une histoire tumultueuse avec l'Orne. Une belle histoire quand même, il y a l'hippodrome de Jean Gabin qui n'est pas très loin. Nous en reparlerons un petit peu plus tard dans l'émission. On aura évidemment aussi de beaux invités pour nous parler de la vie plus actuelle qu'il y a actuellement à Mortagne-au-Perche. Pour m'accompagner, je suis évidemment avec Tatiana, qui ne quitte tellement plus la technique que tu as fini par dormir dans le camion. T'as bien dormi du coup dans le camion ?
Ouais, ça va. J'ai la marque des boutons sur le visage, mais sinon c'était cool.
Tu as pu te reposer un petit peu, ça fait plaisir. Alors, je te pose ma question préférée. Comment on appelle les habitants de Mortagne-au-Perche ?
Les perchois, les... Je sais pas.
T'as jamais bon à cette question, j'adore.
Des fois j'ai bon.
Ouais, c'est ça. Allez, on dit les mortagniers. C'était hyper simple.
Ouais.
Et les mortagniers, c'était simple. Par contre, comment est-ce qu'on appelle les habitants de cette région du Perche ? La région du Perche ? C'est pas les perchois. C'est pas les perchés. Ah, même s'ils le sont.
Non, je sais pas.
Les percherons.
Ah ouais ?
Bah ouais. Incroyable. Bon allez,
on part à la découverte d'oiseau.
Complètement. On part à la découverte tout de suite de Mortagne-au-Perche tout de suite dans l'émission C'est de la locale dans le Mystery Machine Summer Tour de Radio Pulse.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Et on commence cette émission avec notre toute première invitée. Bonjour Virginie, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien, j'apprends des choses déjà en quelques minutes.
On dit percheron, tu le savais ?
Oui, c'est comme un cheval du coup.
C'est ça.
Okay. Pas un oiseau.
Ouais, on dirait un petit oisillon tout mignon.
Un
plus gros.
Un gros oiseau pas du tout mignon, percheron. Bon, pour en revenir à toi Virginie, tu es référente mission locale de Mortagne-au-Perche, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, je suis responsable de secteur à la mission locale et référente du site de Mortagne en tout cas.
Ça implique quoi comme mission, ce genre de métier ?
La mission locale ou mon poste ?
Ton poste.
Mon poste, il consiste un peu à gérer en termes logistiques, on va dire une antenne. Donc on est une dizaine de personnes sur Mortagne, à intervenir, des conseillers, l'administratif, des services civiques. Mm-hmm. Pas que les oublis, sont importants. Et puis de travailler au quotidien pour animer les conseillers qui sont sur le territoire auprès des jeunes.
Et quel type, du coup, la mission locale accompagne les jeunes, donc 16-25 ans il me semble.
Oui, c'est ça.
Et quel type d'accompagnement vous proposez pour les jeunes ?
Alors les missions locales, il y en a partout en France. Notre mission locale comme les autres, elle accompagne le public 16-25 ans. Donc sur tout ce qui va être les démarches d'insertion, donc aller vers l'autonomie. Ça passe par l'emploi, on est acteur du réseau pour l'emploi pour le coup. Et l'idée c'est de les accompagner alors vers idéalement l'emploi durable, mais ça va passer par toutes les thématiques, donc ça peut être la recherche d'un logement, une démarche de santé, monter un dossier sur le handicap, s'inscrire dans un club de sport, on va les accompagner sur toutes les thématiques, sur le logement, le patrimoine aussi, à découvrir leur ville, ça fait partie des choses.
Créer une radio par exemple, c'est possible ?
Créer une radio, ouais, on aime bien ça chez nous. On a nos volontaires services civiques qui animent une radio, alors pareil, c'est en podcast surtout, on peut la retrouver sur notre site internet quand on va sur notre site internet.
Okay.
Mais ouais, c'est radioactif, c'est des jeunes, et puis ils apprennent surtout à d'autres jeunes à découvrir ce qu'est une radio par la technique et aussi à poser sa voix, à créer des interviews, à aller interviewer des acteurs locaux.
Ça fait un peu centre de formation où il y a de l'entraide et ils se forment eux-mêmes à découvrir un métier.
Là, sur la radio, après, ouais. L'idée de la mission locale, c'est de développer des compétences, mm-hmm. donc psychosociales, découvrir des métiers, donc au sens large. Donc travailler avec tous les acteurs, même des acteurs comme vous, des radios, pourquoi pas.
Mais ça veut dire que vraiment, quand tu dis au sens large, c'est on peut aller vers tout type de métier. Et ça veut dire que la mission locale, vous êtes tous préparés pour un accompagnement de tout type de métier, que ce soit, je sais pas, d'être pompier, prof des écoles, boucher. Comment vous faites pour trouver toutes les personnes à contacter par rapport à ces métiers-là?
Bah, c'est le réseau. Après, enfin, l'idée, c'est vous êtes jeune, vous avez 16-25 ans, vous allez venir. Soit vous avez une idée de projet définie. Où là, ça va être simple, on va directement, bah, on a déjà, enfin, je crois que la mission locale, elle est là depuis les années 90, 91, là, sur le territoire. Bah, on a déjà notre réseau, entre guillemets, local et puis régional, départemental. Donc, on va contacter les gens qu'on connaît. Et puis, en parallèle, on va aller pousser des portes, on va dire, via les réseaux de chacun, en fait. L'idée, c'est que, en tant que jeune, bah, vous galérez, enfin, vous n'allez pas galérer tout seul à faire la démarche, à aller chercher un professionnel, un pompier ou autre. On vous met en relation avec des gens du réseau, puis on va chercher si on n'a pas.
Et concrètement, comment ça se passe? Combien de temps ça se met en place pour demander, par exemple, une convention de stage?
Après, ça dépend un peu de chacun, j'ai envie de dire. Sûr. On peut vous accompagner une semaine comme 3 ans.
Je parlais des démarches administratives.
Sur les démarches administratives, ça dépend de chacun. Nous, on aime bien être réactifs parce que je pense que aussi c'est votre génération.
On est rapide, nous.
Ouais, il faut que ça aille vite. Une convention de stage, nous, il nous faut juste le temps. Mais les informations sur l'employeur, la durée du stage, le lieu... qu'est-ce que vous allez y faire? Et après, c'est les signatures employeurs, jeunes et notre direction. Donc, en 48 heures, ça peut être fait. Enfin, c'est pas...
Oh, d'accord. Ok.
Idéalement, si on a plus de temps, tant mieux pour nous. C'est les vacances, il y a moins de monde. Mais non, l'idée, c'est d'être réactif, justement.
Mais justement, vous pouvez accompagner des jeunes pendant longtemps? Tu as dit 2-3 ans?
Bah, ça dépend de chacun, oui. Selon les besoins. Oui.
Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un projet bifurqué, etc.
Oui.
Vous, vous aidez aussi à ça?
Oui, complètement. Ouais. Sur tout le travail du projet... qu'il soit stabilisé, qu'il y ait une coupure, une reconversion. Je prends l'exemple de jeunes qui appellent en disant voilà, je suis en CDI, mais là, j'ai envie de changer de projet, de me reformer.
Est-ce qu'on peut arriver et dire je n'ai aucune idée de ce que je veux faire?
Ouais, c'est la plupart du temps, c'est ça.
Okay.
Comment vous faites justement pour répondre à cette interrogation?
On bosse avec eux, après on sert de tous les outils. On a notre offre de service, on a nos outils en interne, on en crée, on se base aussi sur ce qui existe auprès des partenaires. Ça va être les conventions de stage, c'est des bons points déjà, de rencontrer des professionnels de plein de secteurs, de faire des enquêtes métiers, on organise des forums, nous, ça peut être aussi sur l'orientation, plein d'ateliers sur la découverte métier, casque virtuel, enfin, c'est un peu en fonction de chacun, vraiment, on essaie de s'adapter.
Et vous saviez ce que vous vouliez faire à ce moment-là? Et c'est pour ça, ou alors, même vous êtes allé à la mission locale?
Moi, c'était une découverte, moi je voulais travailler avec les personnes âgées de base.
Ah oui.
Et au final, revirement.
J'ai une première expérience dans une autre mission locale un peu plus loin. Et en revenant un petit en France, moi je suis pas d'ici, mais coup de cœur pour la ville et pour mon équipe.
D'accord.
Coup de cœur pour Mortagne-au-Perche.
Coup de cœur pour Mortagne-au-Perche,
voilà.
Pourquoi ce coup de cœur?
Elle est belle cette ville, elle est super, elle est dynamique. C'est rare qu'une ville d'aussi peu d'habitants soit aussi vivante.
Beau marché le samedi matin. Ouais.
Parce que par rapport à ta première expérience en mission locale, tu sens que cette ville, il y a un truc en plus. Même pour les jeunes, l'insertion peut être pas forcément plus facile, mais il y a plus d'opportunités.
Alors plus facile, parce qu'on est sur des territoires ruraux, donc la mobilité, je pense que comme partout, c'est un territoire rural. Sans le permis, c'est vraiment compliqué. Pour le coup, ça peut être très aidant, parce que les gens peuvent se faire rapidement un réseau, s'y se connaître. Donc quand ça passe bien, c'est aussi de l'entraide. Je pense que les petits villages, vous le voyez aussi sur les gens dont vous allez parler peut-être tout à l'heure, mais ils se connaissent, ils ont du réseau, ils partagent facilement aussi leurs conseils. Et donc ça, c'est assez aidant. Pour nous, en tout cas, les partenaires, on les connaît bien dans des territoires comme ça.
Et justement, des partenaires, est-ce que vous travaillez avec des entreprises locales ou...
Pas complètement,
même,
oui.
Même des institutions, en fait.
Si, on a plein de conventions avec les partenaires locaux. Que ce soit les employeurs dans tout domaine, en fait, que ce soit du lucratif ou non. Soit les petits commerçants locaux qui prennent nos jeunes en alternance, les boulangeries. Je sais pas si je peux citer des noms.
Ah, tu peux citer
derrière,
des noms.
Derrière, je vois Coccinelle qui prend souvent des stagiaires. La quincaillerie du centre juste en face. Oui. Et puis les élus, les mairies, les CDC aussi qui embauchent pas mal d'espaces verts.
Et est-ce que lors de la foire au boudin, tous les jeunes. Parce que Mortagne-Perche, c'est la ville du boudin, boudin noir, et il y a une foire qui rassemble presque 30 000 personnes.
Ils sont à la fête foraine ce jour-là.
Et du coup, tous les jeunes la mission locale sont missionnés pour participer à la foire du boudin.
Alors, on fait pas mal de conventions avec pas mal d'autres événements. On n'a pas encore conventionné sur le stage lors de cette journée, mais ça pourrait être possible. Ils y vont plus pour s'amuser, je pense.
C'est ça. Ah oui, c'est ça.
Et puis, parfois, rencontrer des partenaires aussi sur le terrain, mais ouais, c'est peut-être la journée où il y a beaucoup de monde dans la ville, ça fait venir du monde de partout.
Et pour les vacances d'été, est-ce que vous avez des événements, des projets que vous mettez en place?
Alors nous, on est ouvert tout l'été, donc on a des médiateurs qui font des ateliers. Alors après, c'est des choses peut-être plus concrètes, le soutien au code, des ateliers de web télé, de web radio pour venir découvrir comment ça se passe. Je sais qu'on a une collègue pareil qui fait des actions avec les clubs sportifs du secteur. Mm-hmm. Donc je sais qu'elle a dû mettre en place du tir à l'arc là. Il y a Mortagne, ils ont du tir à l'arc, du ping-pong. Elle allait faire ça sur Mortagne. Et puis des fois, elle fait des journées Explore Patrimoine où elle sort un petit peu l'idée d'un rallye citoyen sur la ville.
D'accord.
Où on demande aux jeunes d'aller découvrir leur ville, notamment sur Mortagne, et d'aller pousser la porte. Alors vous en parlez peut-être, mais des cryptes de la médiathèque, de l'église, de lieux qui, de la mairie. De lieux pour lesquels ils pensent pas que c'est autorisé.
Mmh. Ah mais ça veut dire qu'il y a certains jeunes qui viennent vous voir et qui connaissent pas forcément Mortagne-au-Perche aussi
bien
que...
Un peu comme partout, des fois on vient d'une ville et on s'autorise pas à rentrer dans une médiathèque, on s'autorise pas à rentrer dans une mairie, dans plein de lieux. Et puis non, on s'aperçoit ouais, que beaucoup de jeunes du secteur finalement connaissent pas leur patrimoine, connaissent pas les parcs et jardins de la ville, les musées.
Surtout qu'en plus la crypte, c'est assez exceptionnel que la crypte soit ouverte comme ça au public.
Ouais, un super jardin.
Ouverte, mais comme j'en parlais ce matin avec Dominique Vaux, le président de l'association de la foire au boudin, elle n'est pas assez mise en lumière finalement, en valeur, parce qu'elle est cachée. En fait, il faut...
On peut trouver, il y a des petits panneaux quand
même. Oui, en fait, on peut trouver, c'est ça le truc. On faut la trouver, ce qui est un peu, je pense, ludique. Ça peut être marrant de te faire un peu comme une chasse au trésor. mais c'est vrai qu'elle est, je trouve, pas assez mise en lumière par rapport à ce qu'elle est vraiment.
Pour en revenir à la mission locale, combien de jeunes, tu pousseras ton coup de gueule après Tatiana, combien de jeunes sont accompagnés à la mission locale? Parce que Mortagne-au-Perche, en fait, on l'a dit en début, c'est 4000 habitants, mais du coup, combien de jeunes?
J'ai pas révisé les chiffres parce que notre mission locale, elle couvre tout l'arrondissement, donc 131 communes, c'est alors 1500 jeunes nous, mais on a quelques centaines de jeunes sur Mortagne. Après, c'est toujours du permanent.
Oui, ça brasse pas mal.
Voilà, ça va. Nous, c'est une centaine de jeunes sur Mortagne, quelques centaines de jeunes.
Et vous accompagnez aussi pour le permis, t'en parlais un petit peu avant.
Oui,
pour des aides, pour avoir le permis ou le code de la route.
Oui, puis il y a pas mal d'aides. Nous, on met en place des projets, notamment avec le département, avec d'autres partenaires, la communauté de communes de Mortagne-au-Perche, qui, en contrepartie de stages au sein de la communauté de communes, donc de Mortagne, par exemple des espaces verts, de la médiathèque, par exemple, verse une aide de 350 € aux jeunes pour leur permis, des choses comme ça qui existent. Ouais.
Et tu en parlais juste avant aussi, ça peut être un tremplin, la mission locale peut être un tremplin pour un projet professionnel où on aimerait monter notre propre entreprise aussi.
Oui, sur notre mission locale, on est labellisé groupement de créateurs. Et donc toute personne, alors aujourd'hui il n'y a même plus de critères d'âge, qui a envie de créer un projet. Donc elle a juste une petite idée, mais alors projet d'entreprise, mais aussi, bah, comme on disait tout à l'heure, projet d'une radio, projet d'une association.
Projet culturel.
Pourquoi pas un projet pour remettre des panneaux dans Mortagne, enfin.
Mettre en lumière un monument.
Mais oui, complètement, ouais, réaménager un lieu. Enfin, on avait une jeune qui voulait faire un jardin participatif. Hein. Oh. Tout type de projet, une exposition, un concert. L'idée des collègues qui sont formés au niveau national, c'est d'apprendre à ces jeunes un peu toute la méthode d'un projet. Et de les amener jusqu'à être en lien avec les bons partenaires.
D'accord.
Et ça, c'est un label qui s'appelle comment ?
Groupement de créateurs.
Et c'est un label qui est partagé par d'autres missions locales ?
Alors, il y a d'autres missions locales, mais pas que. D'autres structures, mais c'est au niveau national. C'est de
toutes les missions locales
ne le sont pas.
D'accord.
Il y a un petit truc en plus ici à Mortagne.
D'accord. Donc, si on veut faire un festival, si on veut créer un festival, on peut.
Avec plaisir, les collègues seront contentes de vous aider à faire ça.
Bon courage.
On a des musiciens dans l'équipe.
Bon courage pour créer un festival en ce moment parce que c'est pas la joie du côté des festoches. Est-ce que vous avez d'autres labels à la mission locale ?
Eh bien, nous, on est aussi l'information jeunesse. Du coup, le réseau Information Jeunesse qui est aussi un label national. Et là, ça nous permet de recevoir tout public, donc sans critère d'âge pour le coup, tout jeune, un lycéen, un collégien, qui veut juste se prendre de l'information. Mais ça peut être aussi comment avoir une aide pour du loisir, de la culture, pour passer son permis ou autre. Il peut venir nous voir, ouais. Il n'y a pas de.
C'est quoi les questions qui reviennent le plus ?
Les questions, la mobilité.
Vous me disiez,
comment on finance un permis ? Ça, c'est une des grosses questions.
C'est ça. Ouais.
Faire un CV, des choses toutes basiques, trouver du boulot, trouver un job d'été, là, en ce moment, je pense, sur. 16-20 ans, ouais. C'est les jobs d'été un petit peu en amont là, qu'on avait beaucoup.
Et est-ce que vous proposez l'aide à l'achat de matériel techniquement là, pour la radio ? Si nous, on veut monter, est-ce qu'on peut demander à être aidé pour l'achat de matériel ?
Ouais, alors c'est pas nos aides directement, mais nous, on a des projets où on a des aides, on va dire des enveloppes pour ça. Soit on peut faire appel à des offres existantes sur d'autres partenaires, oui, c'est possible.
Ok.
Mais ce qui est fou, parce que c'est qu'il y a plein d'aides un petit peu cachées.
C'est ça.
Par exemple, un jeune qui souhaite passer son permis et qui se dit « moi, j'ai pas l'argent pour le passer », vous, vous pouvez lui dire, attends, tu peux trouver cette alternative-là, etc.
Oui, c'est ça, c'est vraiment en fonction du, enfin, on dirait du jeune, mais oui, de la personne, du profil, de son projet, de son budget, de plein de choses, en fait.
Par exemple, c'est quoi l'aide, là, si on veut commencer début août, qui pourrait être utile?
Pour
passer le permis, pardon, j'ai mal posé la question.
Ah bah l'aide, bah là, je dirais, bah, faire un stage pour la communauté de communes de Mortagne, ça peut être top, hein, 350 euros, je trouve que c'est déjà aidant. Et puis après, bah, nous, c'est les dispositifs d'accompagnement, le parcours d'accompagnement contrat utilisé vers l'emploi ou le contrat d'engagement jeune, qui est une allocation de 560 euros maintenant par mois quand même, qui peut aider pour financer son permis.
C'est sûr.
L'aide au logement, est-ce que c'est possible aussi ou pas? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Alors l'aide au logement, bah, après, bah, y a les aides du département CAF et autres, mais nous, bah, on va aider à faire les démarches pour déjà les solliciter. Mm-hmm. Et puis après, c'est, encore une fois, c'est, je parlais du contrat d'engagement de l'allocation, l'allocation PACEA qui peut aussi être sollicitée pour le logement.
D'accord.
Et en fonction des projets, en ce moment, on a un fonds pour le sport avec un partenaire. Mm-hmm. C'est un peu...
Mais j'ai l'impression que tu as tout le temps la tête dans les démarches. Et moi, ouais. J'avoue que les démarches administratives, c'est le truc qui me fait le plus peur.
C'est le stress.
Et toi, t'arrives à gérer ce truc-là, à toujours être bien, bien, comment dire, organisé?
Moi, non, c'est les conseillers. Les conseillers, ils sont forts.
Toi, tu t'occupes pas des papiers, toi.
Non, mais les conseillers, en fait, c'est leur métier. Et puis, comme vous, ils galèrent, mais ils vont chercher l'info. Oui. Et puis, le fait d'avoir le réseau professionnel, bah, ça aide vraiment.
Et là, pour la rentrée septembre, est-ce que vous avez des événements, des projets que tu aimerais mettre en lumière?
Alors, sur Mortagne exactement ou
ça peut être Mortagne ou les alentours.
Ouais. Parce que nous, après, bah, sur les projets, j'aurais dû réviser avant. sur les projets qui vont venir, nous, on fait des choses un petit peu sur l'Aigle. Je pense que peut-être qu'à un moment, vous passerez à l'Aigle.
Oui, il me semble qu'on passe...
Quand est-ce qu'on passerait à l'Aigle? Pas demain, peut-être que demain.
sur le quartier de la Madeleine, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se prévoir prochainement sur en lien avec l'emploi, sur des forums d'emploi, préparation, projets professionnels et autres. Qu'est-ce que je peux dire un peu à dire en fin d'année, on fera sur Mortagne un temps fort sur l'engagement, sur le volontariat service civique avec les partenaires du département. Mm-hmm. Donc là, ce sera au Carré du Perche, la grande salle de Mortagne. Je ne sais pas si vous l'avez vue.
La grande salle de... Bah, elle n'est pas indiquée par des panneaux.
Non.
Ouais, il faudrait peut-être l'indiquer avec des panneaux. Tati, ton projet, il tient la route. Les services civiques, ça avait failli disparaître, il me semble.
Et non, c'est toujours là, ça fait 15 ans là cette année. Après, c'est un contexte économique où on ne va pas être en développement au niveau national, mais le nombre va stabiliser plus ou moins. Et nous, on fait de l'intermédiation, donc on peut accueillir en interne des volontaires et on peut mettre à disposition des volontaires pour des partenaires.
Ok.
À Mortagne, on en a deux sur la ressourcerie des Ravenelles. Je ne sais pas si c'est une ressourcerie qui a été créée à Mortagne.
C'est quoi une ressourcerie?
Une ressourcerie, bah, je veux dire, ils récupèrent, ils travaillent beaucoup avec le SMIRTOM, les déchetteries de Mortagne et...
Ils récupèrent des ressources.
Ils revendent pour pas grand chose en fait, ils font pas vraiment de lucratif, ils remettent en état. Donc il y a toute une démarche derrière environnementale, c'est ça, développement durable.
Et deux services civiques s'occupent de ça.
Ouais, un actuellement, mais il y en avait deux dernièrement.
Merci beaucoup Virginie d'avoir eu le courage de monter dans cette mystery machine pour nous parler de la mission locale de Mortagne-au-Perche dont tu es l'une des référentes. Merci beaucoup encore.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puis nous faisons la première pause musicale de cette émission avec notamment le morceau La Bataille du groupe Los Tres Puntos. We'll be right back. C'était La Bataille du groupe Los Tres Puntos sur Radio Pulse. Nous sommes toujours à Mortagne-au-Perche pour la suite du Mystery Summer Tour. Mystery Machine Summer Tour plutôt. Et nous venons d'accueillir un nouvel invité dans notre camionnette, Vincent Lebel. Bonjour Vincent, comment ça va ?
Bonjour, très bien, merci. Je suis toujours ravi d'être sous le soleil à Mortagne.
C'est beau, c'est vrai que ça fait plaisir.
Oui.
Alors, tu es président de l'association Mortagne Patrimoine. Quel est le rôle de cette association ?
Alors, c'est une association comme les autres associations patrimoniales qui ont pour souci de valoriser le patrimoine, de le sauvegarder quand il est en péril, voilà, et puis de contribuer d'une manière générale à sa restauration dans les cas les plus difficiles.
Justement, le patrimoine de Mortagne-au-Perche, ça représente combien de bâtiments ?
Je ne saurais pas dire le nombre, mais il y a à Mortagne au moins 3 monuments privés classés, plus bien sûr l'église Notre-Dame, plus le couvent Saint-François, etc., etc. Donc il y en a beaucoup.
Mais c'est vrai que quand on se bat, c'est un peu le label petite cité de caractère.
Alors, pas tout à fait. Le label cité de caractère récompense en fait l'attractivité qui est organisée par la ville, qui permet donc d'attirer du monde à l'aide de manifestations qui sont régionales, okay, et qui drainent donc des visiteurs potentiels vers ces lieux magiques, en général, et tout à fait à découvrir, avec l'aide donc de l'association.
Bah, c'est vrai qu'il y a plein de lieux, pour le coup, tu as raison de parler comme ça, mais magiques et trop cool à découvrir, notamment la crypte. Alors, Tatiana trouve que c'est mal indiqué.
Non, je ne dis pas que c'est mal indiqué. Je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur.
Mais moi, j'aime bien le côté, parce que c'est assez surprenant de voir une crypte comme ça, un peu en libre service, dans lequel on peut se balader.
Oui, c'est sûr.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut savoir que là, la raison elle est simple, c'est qu'avant, au-dessus, là, il y a un bâtiment, mm-hmm, c'était une collégiale, c'est-à-dire une église, en fait, qui a, okay, été démolie un peu après la Révolution. Et donc, ce qu'il en reste, c'est une crypte, mais pas n'importe quelle crypte. Elle date du XIIIe siècle, du tout début du XIIIe siècle. Voilà. Et donc, c'est ce qui en fait le charme, c'est qu'elle est entourée d'un petit jardin qui est aménagé par des associations de préservation de la nature, enfin écologique si on veut, avec il y a une ruche, mais oui, avec des abeilles dedans, ouais, absolument, il y a des et ils élèvent des plantes qui et ils donnent les graines pour pouvoir ensemencer son petit jardin à soi ou son balcon cas échéant.
Une crypte, c'est un peu la cave de l'église. Est-ce qu'on peut parler comme ça?
Alors, crypte, c'est un mot grec, hein, qui veut dire en dessous ou vide. Voilà. Donc, effectivement, c'est un endroit où il y avait ce qu'on appelle des déambulations, c'est-à-dire qu'il y a des processions qui étaient dans l'église, qui descendaient dans la crypte pour honorer les morts qui étaient enterrés là. Voilà.
Comment est-ce qu'on conserve ce genre d'endroit? Parce que c'est quand même sous un énorme bâtiment, donc il ne faut pas que ça s'écroule.
Ah ben, il prévoyait large, alors je ne sais pas si vous avez été dedans, mais
oui,
il y a des voûtes magnifiques, et puis vous avez vu que les piliers sont énormes. Hein,
c'est ça, et il y a un moment, il y a un petit endroit qui a été même restauré, qui a été remis un petit peu avec du ciment au niveau, vers le milieu. Qui est moins naturel, du coup on voit moins les...
Vous avez l'œil, c'est très bien, effectivement. En fait, jusqu'à un temps récent, je dirais une quarantaine d'années, l'endroit était une cave comblée par des débris, des gravats, etc. Et à l'époque, donc, la ville a voulu le mettre en valeur, donc elle a fait déblayer ça, et puis effectivement il y avait une petite partie, très petite, qui a été restauré. Mais par contre, ce que vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle les clés de voûte, hein, donc qui sont en haut de ces voûtes. Eh bien, il y en a certaines qui ont encore leur couleur d'origine. 800 ans de peinture, ça, c'est de la qualité quand même.
Hein.
Comment ils ont fait cette peinture-là, c'est vrai que
à l'époque, c'était des pigments naturels, hein, c'est-à-dire des poudres broyées, quoi, comme de l'ocre ou des choses comme ça.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits à Mortagne, au Perche, où il y a des... pas des bâtiments historiques comme ça, très très bien conservés?
Il y en a un qui est en cours, pour lequel nous collectons de l'argent pour restaurer. Les travaux vont commencer très bientôt. Et qui est un endroit alors plus que magique. D'abord parce qu'il est difficile à trouver, mais il y a mieux maintenant. Il y a un fléchage qui a été organisé, donc déjà ça va mieux. Mais quand vous arrivez, vous rentrez dans un couloir sombre et minuscule, et là, quand vous en sortez, vous découvrez le cloître. Alors c'est magique.
Ah, le fameux cloître.
Voilà. Et après, il ne faut pas faire comme la moitié des gens, il ne faut pas faire le tour puis dire « Oh, qu'est-ce que c'était beau !» Non, il faut pousser une petite porte minable qui vous fait découvrir une chapelle inouïe, qui est peinte du sol jusqu'au plafond.
Alors, oui, incroyable.
Assez magique. Alors, allez, ouais. Alors, c'est un peintre qui a fait ça tout seul, hein, il y a 150 ans à peu près. Et il a plein de sujets, si vous voulez, différents, etc. Et c'est ça qu'on essaie de restaurer, parce qu'en fait, les peintures se sont un peu dégradées à cause de l'humidité. Et, mais même dans cet état-là, je dirais, les gens sont vraiment estomaqués. Et Stéphane Bern, le premier, qui est passé là il y a 2 ans, oh, il a été sous le choc et il a écrit dans le livre d'or, vous pouvez compter sur moi pour la restauration. Et bien, 6 mois après, on avait gagné le prix patrimoine Stéphane Bern.
Mais non.
Mais oui.
Si, si, si. Ah ben, ça nous a beaucoup aidé parce que c'est quand même une somme relativement importante et qui permet en plus d'attirer l'attention sur le projet. Quoi.
Et quels sont les premiers éléments de restauration que vous allez commencer ?
Eh bien, très bonne question. Ben, et c'est une logique. Hein. On commence par le toit parce que ça ne sert à rien de restaurer des peintures. Non, et si l'humidité surtout continue et que le toit fuit. Voilà. Donc, ceci étant, effectivement, il y a des éléments de la charpente qui sont un peu fragiles. Donc, c'est pour ça que c'est un projet très important. Il fait 2 millions, rien que pour faire la maçonnerie, la toiture, la charpente, enfin, tout ce qui sera l'enveloppe, je dirais, avant de pouvoir commencer le travail de restauration de peinture. Et on a commencé simplement par 2 peintures qui pouvaient se ranger à l'abri, qu'on a fait restaurer grâce à un prix qu'on a eu du Pèlerin Magazine. Voilà.
Vous avez plein de prix.
Pas mal. On en a un qui me fait particulièrement plaisir. C'est le prix qui est en fait qui est le prix Sésame, qui est donné aux associations qui organisent des événements, parce qu'on donne beaucoup d'événements dans cette chapelle pour faire connaître les lieux, puis pour collecter un peu de sous quand même. Donc on donne par an 6 concerts, 2 ou 3 conférences et 2 expositions.
Il y en a une d'ailleurs en ce moment, exposition.
Ah oui, avec effectivement. Voilà, absolument, qui expose. Ça s'est organisé par la ville, enfin par le département, je ne sais plus. Et effectivement, tous les ans, ils viennent aussi exposer dans le cloître. Mais c'est dans le cloître, c'est pas dans la chapelle. Moi, les concerts, c'est bien sûr dans la chapelle. C'est pas à l'air libre. On pourrait, mais bon, non. Et donc, ce prix Sésame, il récompense justement les associations qui organisent des événements pour rendre vivants ces lieux et pas seulement restaurer des pierres. Parce que finalement, ces lieux-là, c'est des lieux publics. Et il faut que ce soit vivant, c'est pas uniquement pour avoir des jolies pierres. Quoi.
Bah même s'ils appartiennent au passé, il faut continuer de les faire vivre au présent.
Absolument,
oui, parce
et le plus de monde possible.
Justement, on parlait de la petite chapelle avec le cloître. Là, pour l'instant, ce sont les petits oiseaux qui profitent de ce bel endroit.
Les pigeons, oui, mes ennemis personnels.
C'est vrai, c'est des ennemis.
Ah, j'aime bien les animaux, tous les animaux, mais les pigeons dans les monuments historiques, on n'est pas copains.
Mais comment vous...
Mais alors, c'est pour ça que vous avez vu peut-être, là, la ville a mis un pigeonnier à côté de l'église Notre-Dame.
Ah
oui, c'est un pigeonnier pour réguler la population.
D'accord.
Alors, donc, ils sont installés là, et puis on contrôle les œufs, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a une population, mais limitée.
Incroyable. Mais parce que c'est vrai que c'est un vrai problème, les pigeons dans ces endroits-là.
Terrible, parce que à cause des déjections et puis
ils endommagent les beaux monuments.
Ah oui, voilà.
C'est leur manière à eux peut-être de dire qu'ils aiment le cloître et la chapelle.
Peut-être. Enfin,
tout le monde ne fait pas comme ça, je crois.
Non, non. Bon, heureusement.
Bon, mais c'est vrai que le cloître, c'est un endroit assez magique.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire un peu le lieu? Il est près des urgences.
Oui.
Ça pareil, c'est assez incroyable.
Ouais.
Bah, il appartient à l'hôpital, du coup.
Tout à fait. Mmh. Et c'est bien un de nos soucis aussi, c'est que les gens ne rentrent pas tellement de gaieté de cœur dans un hôpital, soit qu'ils soient des patients, soit qu'ils soient des gens qui viennent visiter la famille ou des amis. Mais c'est effectivement en plein dans l'hôpital. Et pourquoi ce projet ? Parce qu'il n'est pas seul, en fait, c'est de réhabiliter l'ensemble. L'ensemble, c'est un couvent. Hein, un couvent avec l'endroit où dormaient les sœurs, le cloître où elles déambulaient. Hein, il y a même encore la cuisine et le réfectoire. Et il y a la chapelle. Et donc, si vous voulez, l'idée de l'hôpital, c'est de réhabiliter. Autrefois, c'était un EHPAD, l'endroit où vivaient les sœurs. Et maintenant, ils veulent mettre l'administration pour ouvrir d'autres lits là où ils sont aujourd'hui. Donc, ça fera beaucoup de pôles d'animation entre l'animation qu'il y aura à la chapelle, il y aura un tiers-lieu, il y aura des salles de formation, etc. Donc, ça sera un lieu à nouveau vivant, donc plein dans l'hôpital, juste en face des urgences. Si vous avez noté, vous y avez fait un séjour, non, j'espère pas.
On a parlé de la restauration de ce cloître, mais on n'a pas parlé de sa création, son histoire autour de...
Alors, oui.
Est-ce que c'est le 13e siècle comme la crypte?
Ah non, alors c'est une autre partie de l'histoire de Mortagne. C'est-à-dire que la crypte, en fait, elle a été fondée donc par Mao de Bavière. Ça se passe en l'an 1200. Voilà. Son mari part aux croisades et il meurt en partant aux croisades. Donc, qu'est-ce que fait son épouse? Elle est comtesse du Perche. Et donc, elle va élever une église collégiale pour prier pour son âme, le repos de son âme, etc. Donc, ça, c'est la crypte, l'origine de la crypte.
C'est sympa.
Ah oui, tout à fait. C'est moins qu'on puisse dire. Mais ça, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Par contre, pour le couvent qui s'appelle couvent Saint-François et Sainte-Claire, c'est Marguerite de Lorraine qui est un personnage central de cette ville, parce qu'on peut dire que toutes les maisons que vous voyez autour de vous dans les caves, c'est du XVIe siècle, c'est sûr à peu près. C'est que cette femme, c'est une destinée extraordinaire, parce que c'est une descendante de Saint-Louis. C'est la petite fille du roi René, comte de Provence, roi de Naples, enfin vraiment quelqu'un d'illustre. Et en fait, elle va faire un mariage, pour des raisons politiques, avec René d'Alençon. René d'Alençon, c'est un prince de Valois. Donc, il est cousin du roi, c'est le cousin direct. Et donc, il a besoin d'argent parce qu'il a été un petit peu... Il a été dépensé, puis les terres ont été ravagées par les Anglais. Et donc, il fait ce mariage. Il a 3 enfants de sa femme et il meurt. Voilà. Et sa femme, qui est une femme, dont un garçon, qui est un tempérament extraordinaire, dit, ben voilà, elle demande au roi la garde des enfants, parce que normalement, comme c'est des enfants de sang royal, ils doivent retourner à la cour. Il dit, je vais élever mes enfants et je veux gouverner le pays et le relever. Ce qu'elle a fait en 10 ans.
En 10 ans ?
Ouais.
Donc dans les années 1500...
Alors, entre 1493 et 1510, on va dire, voilà.
Elle a réussi à relever...
Une femme.
C'était la région du Perche, c'est ça ?
Alors, elle était à la fois comtesse du Perche et duchesse d'Alençon.
Est-ce qu'elle a dû faire face à quelques batailles ?
Oui, tout à fait. Il y a eu même ce qu'on appelle une bataille des placards. Bah oui, parce qu'elle avait un très fort sentiment de justice. Et comme toujours, quand il y a des périodes troubles, eh ben, les puissants, bah, ils s'emparent de certains trucs, ils prennent des petits privilèges, tout ça. Elle a maté tout le monde, elle a fait des procès. Donc, et elle a institué une loi nouvelle, hein, puisque la loi avant était orale. Voilà. Et donc cette femme donc, a eu effectivement affronté des jacqueries, hein, parce que les gens n'étaient pas contents, parce que le meilleur moyen c'est quand même de faire des impôts aussi, hein, un petit peu, de faire travailler les gens, etc. Bon, pour la bonne cause. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas laissé un très bon souvenir. Et pourtant, elle a été béatifiée. Alors, vous vous rendez compte quand même ? Un souverain qui a été béatifié. On n'en a pas beaucoup dans l'histoire de France.
Béatifié, ça veut dire ?
Alors, elle est bien heureuse. Elle n'est pas sainte exactement. Elle est bien heureuse pour l'Église catholique. Et pourquoi ? Ouais. Parce qu'après la guerre de 14, on a voulu donner une importance aux femmes quand il y a la guerre. Parce que tout ce qu'elles doivent assumer, même quand elles sont chefs d'État, elles doivent assumer dans les campagnes, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre de 14, leur mari était à la guerre dans les tranchées, bah, les femmes, bah, fallait bien qu'elles fassent les moissons, fallait bien qu'elles travaillent la terre, fallait bien qu'elles élèvent en même temps les gosses et tout le bazar. Donc je veux dire, c'est vrai que c'était un hommage voulu, et c'est pour ça aussi qu'elle a pris elle-même le voile, c'est-à-dire qu'elle est devenue elle-même Clarisse à la fin de sa vie. Voilà, elle est devenue bonne sœur, donc une comtesse duchesse, à la fois béatifiée et qui a été à la fin de sa vie une bonne sœur. Voilà, on peut le dire comme ça.
Ça, c'est une sacrée vie. Ça,
une soirée, c'est super à raconter.
Ah oui. et je vous fais raccourcir, hein, parce que je vais pas. Voilà.
Mais d'ailleurs, vu comment t'en parles, c'est assez prenant comme histoire. Est-ce que vous faites des visites de ces lieux-là ?
Ben, j'arrête pas, évidemment. c'est dommage que vous soyez pas encore avec de la vidéo, mais ça va venir.
Avec de la vidéo ?
Bah, bien sûr, on a des vidéos qui permettent de visiter le site, etc. Mais bien sûr, on fait surtout des conférences. Et puis surtout, les concerts, c'est une musique classique avec des voix chorales. C'est pas la même chose dans une salle de concert que dans une église. Parce qu'il faut savoir que il y a des lois qui permettent de mieux réverbérer le son. C'est pour ça que les sœurs étaient à la tribune en hauteur. Pour quand elles chantent, bah c'est tous ceux qui sont en bas qui en profitent.
Qui en profitent le mieux.
Voilà.
Ça, c'est...
Et justement, en parlant de Marguerite, j'étais avec Dominique Vaux ce matin.
Ah,
on
oui
était dans la chapelle et il me disait qu'elle se mettait. Il y a un petit endroit tout en haut.
C'est encore une histoire à raconter au coin du feu, mais là, il va vous falloir quelques heures. Non, en fait, comme je l'ai dit, Ça a été une femme chef d'État, on peut le dire, mais elle était foncièrement très pieuse.
Est-ce que tu peux nous rappeler son prénom ?
Alors, Marguerite de Lorraine.
Marguerite de Lorraine. Que je l'imprime bien dans mon cerveau.
Puisqu'elle était la sœur de celui qui est devenu duc. Parce qu'en fait, si on l'a mariée, c'est pour pouvoir payer une dot importante. C'est parce que le frère, il voulait plutôt régner sur la Lorraine et elle ailleurs. Voilà. Bon, ces affaires de famille. Bon, non, c'est ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, c'était une femme qui était... Parce qu'à la différence de certains... Elle-même était extrêmement sévère, rigide, rigoureuse. Elle faisait des économies. Elle avait un train de vie extrêmement réduit. Elle était toujours habillée en noir. Et elle avait une attention particulière pour les pauvres. Il y a ici ce qu'on appelait un hospice. Un hospice, c'est à peu près un hôpital, sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que les malades. Il y avait les vieillards, les nécessiteux, les veuves, les pauvres gamins orphelins, etc. Donc il faut quand même comprendre qu'à Mortagne, aux alentours de l'an 1500, une ville qui faisait 5000 habitants déjà, il y avait 1200 personnes à l'hospice. Et comment les faire vivre ? Ben, il y avait une organisation qui était, disons, partagée à la caisse entre ceux qui géraient et puis les autres. Et Marguerite de Lorraine a dit, elle venait souvent à Mortagne, dit, bon, ben, je vais vous expliquer comment on va faire maintenant. Je vais nommer 3 personnes. Je les remplace tous les 3 ans. Pour ne pas être sûr que pas de magouille. Et je vérifie les comptes tous les ans.
Voilà. Pour pas qu'il y ait de magouille.
Voilà. Pour que, être sûr que l'argent qu'elle donnait à l'hôpital... Et elle-même payait une attention particulière aux plus pauvres, aux plus nécessiteux. Et elle avait acheté une maison en face de la chapelle que vous avez vue. Et les jours de messe, elle les amenait écouter la messe sur leur brancard à travers une galerie en bois qui arrivait derrière une pièce à côté de l'église. Parce qu'elle ne pouvait pas se mélanger aux sœurs Clarisse, car ce sont des cloîtrées, c'est-à-dire des sœurs qui n'ont pas le droit de sortir de leur enclos. Donc, cette grande grille que vous avez vue, elle est grande pourquoi ? Ben pas parce que Marguerite de Lorraine prenait ses aises, non, parce que derrière, il y avait une vingtaine ou une trentaine de nécessiteux qui assistaient avec elle à la messe.
Elle amenait les nécessiteux à la
voilà.
messe.
Voilà. Et ce qu'on appelle un agioscope, c'est-à-dire, ça permet en grec, agios, saint, hein, ce qu'on peut voir, c'est-à-dire, ça permet aux saints de voir, ou aux saints d'être vus.
Ok,
mais ils regardaient la messe.
Toutes ces petites anecdotes, on peut les retrouver où ?
Bah dans ma tête, mais quand même, ça commence à se savoir.
Tu parlais des vidéos.
Non, rassure-toi, j'ai écrit quelque chose, un certain nombre d'articles là-dessus, hein, dans des revues savantes comme les Amis du Perche, hein, qui font des publications historiques. Mais c'est surtout au cours des visites, quoi. J'explique ça parce que c'est
justement
quand même plus dur. Il faut le voir.
C'est sûr. Voilà. Mais les visites, on vient à Mortagne. Et c'est tous les jours de la semaine cet été, par exemple ?
Ah, bah, c'est ouvert tous les jours, de 8h30, et malheureusement à 18h, on est obligé de fermer un peu plus tôt, mais avant c'était jusqu'à 19h. Enfin bon, 18h c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez vous pointer quand vous voulez, même le dimanche, il n'y a pas de problème. Voilà.
Et quand est-ce que tu seras là pour raconter les anecdotes ?
J'habite pas loin, mais bon, j'essaie de grouper.
Bon, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la crypte, dans le cloître de Mortagne-au-Perche, et vous réécoutez l'émission qu'on est en train de faire.
Voilà,
c'est ça,
vous avez
très bonne
idée. En même temps. Merci beaucoup. Merci Vincent Lebel d'avoir été avec nous.
Je suis très content d'avoir partagé avec vous.
Un peu frustrant parce que je crois qu'il y a tellement de choses à raconter.
Ah bah bien sûr, je fais exprès de cacher d'autres choses.
On fera une émission spéciale rien qu'avec vous.
Bah, c'est très gentil, avec plaisir.
Et une émission rien qu'avec Virginie aussi, Tatiana. Sois pas non plus excluante. On n'exclut pas non plus la musique sur Radio Pulse. La preuve avec Ozgang tout de suite et le morceau Comme une ombre.
My bitch fait sa money, ho. Hein? Fait sa money, ho. Check, hein? My bitch fait sa money, ho. My bitch fait sa money, ho. Vrai G comme Coolio. R.E.P. Coolio. J'respire, j'reste Coolio. Pendant qu'elle charbonne dans le four, yo. Gère mon business comme Danny Trejo. Qui je suis pendejo. Y'a le 4, y'a le triple et le 0. Pédaniero, à l'interrogation.
zéro glaçon. Hein. Ils veulent connaître les membres de ma faction. J'parle qu'en fraction, de toute façon. J'porte jamais d'affirmation, jamais d'information. Elle te donnera sur mon nom. Ma bitch fait sa money ho. J'pourrais l'assumer si elle le voulait. Mais ma bitch fait sa money ho. Ma bitch fait sa money ho. J'pourrais la gérer si elle le voulait. Mais ma bitch fait sa money ho. C'est une peinture d'Archimboldo. Ne pas coffrer ça, ce serait du gâchis, poteau. Tu veux des conseils patrimoniaux? Tu veux des conseils matrimoniaux? Je suis sur la ligne Maginot. Je suis une hit machine, wow. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Elle va te mettre une tréha si tu fais pas ce qu'elle veut. Les femmes c'est compliqué comme jouer à Zelda. T'as de la monnaie mais c'est pas pour ça qu'elle t'aigera pas. C'est la même de LGAB Jaya. Rebeu fait fumer la Z la 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 la. Pendant que ma bitch fait du rodéo à haut niveau 1080 Tony Hawk. Elle reste muette car la money talks. La musique des New Morricone, hein. Ma bitch fait sa money ho. J'pourrais l'assumer si elle le voulait. Mais ma bitch fait sa money ho.
J'aurais adoré que ce soit le morceau comme une ombre de Osgang, mais en fait c'était pas du tout ça. Je suis désolé, la team Radio Pulse, nous sommes toujours à Mortagne-au-Perche et après toutes les anecdotes de Vincent, bah, j'étais un petit peu perdu. On vient de s'écouter le morceau Archimboldo de Murmure.
Oui, bon, c'est de la faute de Tati parce qu'elle a pas attendu la musique.
Elle non, non, que... non, allez, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des petites tentatives parfois ratées. Il est temps d'accueillir un invité qu'on a déjà reçu et qu'on vous propose d'écouter. C'est Dominique Vaux.
Bonjour Dominique, comment allez-vous ?
Bonjour, bah ça va très bien.
Que vous pouvez nous parler un peu plus de votre rôle au sein de l'association ?
Eh ben, faut un président, donc je suis président de l'association Mortagne Événements. On est une petite quinzaine de bénévoles et on organise principalement la foire au boudin.
Et donc cette foire au boudin, événement un peu phare quand même, un peu beaucoup même de Mortagne-au-Perche. Comment est née cette foire au boudin ?
Alors la foire au boudin, il s'agit d'un événement important et très populaire qui attire un nombreux public consacré au boudin noir, spécialité locale et plus généralement à la gastronomie. Cette foire a progressivement pris sa place à partir de 1962 de la traditionnelle foire Expo qui existait depuis longtemps mais rapidement confrontée à un lent déclin en raison de la concurrence des nouvelles offres commerciales. C'est donc en 62 que l'idée a été lancée d'organiser, toujours à la mi-carême, pour respecter une tradition séculaire, une foire au boudin.
Votre rôle au sein de cette foire au boudin, qu'est-ce que vous faites concrètement, vos activités quand cette foire commence et même bien avant pour la préparation de l'édition?
Oui, on s'y prend à peu près au mois de septembre. On commence à envoyer les dossiers au mois d'octobre pour mi-mars, la foire. Donc sur la foire, on a trois associations. On a la confrérie des chevaliers du goût de boudin qui organise le concours international du meilleur boudin noir. On a l'UCP qui organise la course du dimanche après-midi, et on a Mortagne Événements qui organise la foire exposition autour de la gastronomie et puis tous les exposants qu'on retrouve dans les foires.
Et donc j'ai un peu l'impression que c'est vraiment un moment fort de la saison à Mortagne. Quel est l'impact justement de cette foire sur Mortagne et les alentours?
Bah c'est quelque part c'est un petit peu la renommée de Mortagne au Perche parce que c'est à peu près 25 000 visiteurs qui passent dans un week-end, sachant que la population de Mortagne est de 4000 habitants, vous voyez un petit peu le nombre de gens qui fréquentent Mortagne dans un week-end.
Si vous parliez juste avant du meilleur concours de boudin, comment ça se passe? J'imagine que c'est le moment fort du week-end de cette foire. Comment se passe ce concours?
Alors le concours, il est organisé sous l'effigie de la confrérie du chevalier du goût de boudin. C'est un concours qui est maintenant international. Il y a environ 600 échantillons de boudin noir qui parviennent de toute l'Europe, de la France, et voire d'un petit peu plus loin, Japon, États-Unis.
Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant le tour du monde comme ça, que ça soit aussi important. Il y a combien d'ailleurs de producteurs et d'exposants qui viennent y participer cette foire?
Alors au total, on avait l'année dernière, en 2025, 175 exposants, tout corps de métier confondu, ce qui est beaucoup pour Mortagne.
J'ai vu qu'il y avait aussi des chefs qui étaient invités. Qui sont ces chefs ? Est-ce que c'est les mêmes chaque année ou vous essayez de diversifier un peu ?
Alors là, on a un chef qui s'appelait Polo jusqu'à maintenant, qui organisait toute l'animation culinaire au sein de la foire. C'est lui qui invitait différents chefs. On retrouvait principalement à peu près les mêmes, parce que c'est toujours des chefs qui sont autour de Mortagne qui viennent, donc on retrouvait à peu près toujours les mêmes. Pour l'année 2026, pour l'instant, on ne sait pas encore le programme. On ne connaît pas encore le programme.
Pour rentrer vraiment dans l'esprit de la foire, c'est quoi pour vous l'odeur de la foire pour parler, j'imagine que c'est la... L'odeur du boudin, mais comment on peut décrire cette odeur ? Est-ce qu'il y a d'autres odeurs ou pas ?
Alors, l'odeur du boudin, on la retrouve autour du grill, forcément. Quand on arrive dans la foire, suivant les vents, comment l'odeur est portée, on la sent bien. Et puis après, à l'intérieur des pièces, des espaces, il y a différentes odeurs qu'on retrouve. Il y a des gens qui font des gaufres, il y a des gens qui font des crêpes, donc on retrouve un petit peu un mélange de toutes sortes d'odeurs.
Pourquoi, selon vous, les gens reviennent chaque année pour cette foire ?
Eh ben, c'est certainement l'attrait du boudin, parce que il y a quand même au niveau du grill les charcutiers qui font énormément de boudin. Il faut savoir que 1 mètre de boudin c'est environ 1 kilo. Les charcutiers, c'est au total de tous les charcutiers, c'est plusieurs tonnes de boudin qui sont sorties du grill. Il y a des gens qui viennent avec des glacières, des sacs congélos, enfin il y a tout un tas de choses comme ça où les gens repartent avec beaucoup de boudin.
Et d'ailleurs, justement, après 3 jours, combien de kilos de boudin ont été mangés durant cette foire ?
Alors, mangés, je sais pas, mais vendus environ 5 tonnes.
Quand même, ça fait beaucoup. Et donc, on sait que cette foire est très connue à Mortagne, mais à quel point elle est connue ?
Alors, je sais qu'on a pas mal d'Anglais qui fréquentent la foire. Après, au niveau régional, oui, elle est très connue au niveau régional. Mortagne est connue grâce à sa foire.
Eh bien, merci Dominique Vaux. Et puis, on se retrouve du coup pour l'édition 2026 à la foire au boudin l'année prochaine.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Dominique Vaux, pour ce petit entretien. Vincent, je te laisse reprendre un micro parce que j'ai quelques questions à te poser sur la foire au boudin. Tati, pareil, reprends un micro.
Je suis toujours là.
Parce qu'effectivement, la foire au boudin, c'est vraiment l'événement de l'année, chaque année, à Mortagne-au-Perche. Tu y participes aussi ?
Bien sûr.
Est-ce que tu es bénévole dans l'association ?
Dans l'association de Dominique Vaux, c'est plutôt lui qui nous rend des services, je dirais, parce qu'effectivement, il anime en fait tout un ensemble d'activités. Mais nous avons une association avec une centaine d'adhérents à peu près. On n'est pas très nombreux en actifs bénévoles, mais ce sont des activités différentes.
Du coup, quelques questions autour de la foire du boudin. On va voir si vous êtes incollables autour de cet événement.
Oh bah, VG que je connais par cœur le boudin.
Première question, en quelle année est créé un lien indéfectible entre le boudin noir et la ville de Mortagne lorsqu'est créée la confrérie des chevaliers du goutte-boudin ?
Bon, alors on va voir si j'ai bon à la copie. Ça, je dirais 1963.
Et toi, Tati, tu dirais combien ?
Je pense,
aide-toi de Vincent.
Je crois que j'ai mieux. Alors,
non. Tu ressors.
Vous avez dit
combien ?
1963, t'avais raison.
Ah, c'est ça, oui.
Enfin, effectivement, c'est à cette année-là que se crée la confrérie du goutte-boudin.
Le goutte-boudin, oui.
Là, ça ne rigole plus. Hein.
Ah bah, ils sont en tenue réglementaire avec la médaille, le petit chapeau, tout. Hein.
C'est incroyable.
Et c'est des gens qui viennent pour le concours. Il y a des boudins qui arrivent du monde entier. Du boudin antillais.
J'ai vu hein, Japon,
il y a de,
Amérique.
À partout.
Incroyable.
Les Allemands sont très bons aussi. Non, c'est vraiment une foire et ils reviennent après, un peu plus tard, quand c'est un peu plus calmé, pour justement visiter Mortagne. Et on les reçoit à la chapelle volontiers.
Deuxième question, vous allez essayer de trouver un concours un peu plus mystique qui a lieu en même temps que la foire. Donc il y a le concours du meilleur boudin, mais il y a aussi un autre concours.
Un autre concours. Il y a le concours du mangeur de boudin.
Ah, mais.
T'es incollable, Vincent.
Oui.
T'es incollable, effectivement. En même temps que le concours
du meilleur boudin. J'ai jamais candidaté, là, quand même. Moi, je suis plus pour la qualité.
Mais c'est fou, le concours du plus meilleur mangeur de boudin. Est-ce que tu t'entraînes à l'année pour ce genre de truc?
Pas du tout, c'est un régal. Ouais. Ici, il y a plusieurs charcutiers dans la ville. Maintenant, ils doivent être un peu fermés. Mais effectivement, c'est... Et par rapport... moi, enfant, je mangeais ça quand on tuait le cochon et on prenait le sang frais et on le mélangeait avec les oignons frits.
Oh.
C'est sublimissime.
Tati qui est végétarienne aussi.
Oui, évidemment, pour un végétarien, c'est un peu difficile.
Ouais, et c'est quoi votre spécialité de boudin? Est-ce que vous l'aimez, par exemple, le boudin aux pommes ou nature ou autre?
Alors voilà, moi, ma spécialité préférée, c'est nature.
Nature?
Ouais. Du boudin noir classique. Ouais. D'ailleurs, combien de kilos de boudin ont été mangés lors de la foire au boudin à Mortagne?
Alors, il a bien dit pas mangé, mais vendu. 5 tonnes.
5 tonnes, effectivement.
Attention.
Et du coup...
Parce que les gens repartent avec du matos.
Ouais.
C'est sûr.
Dingue.
Et combien de kilos de frites? Parce qu'il y a aussi les frites qui accompagnent le boudin.
Alors là, il n'y a pas dit le chiffre, sinon je l'aurais retenu, mais je dirais autant. Allez.
Peut-être pas 5 tonnes.
Ah ouais, moi?
Ah, c'est plus léger les frites.
Oui, c'est vrai, oui.
C'est 600 kilos.
Oh ouais.
C'est tout.
D'accord.
Mais
non, mais justement, les frites, elles sont consommées sur place.
Ah bah oui.
Alors que le boudin, il est mangé et exporté. Alors que les frites, non.
D'ailleurs, si vous voulez une petite anecdote, un kilo de boudin, ça représente un mètre.
Ouais.
Si on les aligne.
Ouais.
Ça veut dire que quand il y a 5 tonnes de boudin.
Ça s'appelle une brasse.
C'est ça. Ça veut dire que lors de la foire, il y a eu 5 kilomètres de boudins qui ont été produits et vendus.
Ah oui, quand même.
Ça, c'est quand même assez
rêver,
incroyable.
Hein.
Tu peux aller d'Alençon à Persaigne, à Condé-sur-Sarthe, avec du boudin.
Voilà. En petit
ça, c'est
oui,
quand même.
On a de quoi se nourrir sur le long du chemin, hein,
oui, c'est sûr.
Combien de cochons a-t-il fallu tuer pour cette foire?
Oh. Voilà, pauvre bête. Elle serait morte quand même. Et allez. Je dirais à 100 kilos en moyenne par boudin. Hein.
Il y a des vrais calculs là.
Allez, ouais. Alors ça fait 5000 kilos. Allez,
Si, tu peux tenter quelque chose, Tati.
5000 kilos, une centaine.
C'est plus, c'est vraiment plus.
200 kilos?
Non, nombre de cochons.
Nombre de cochons, ouais.
Ah.
Plus de 100?
Plus de 100, beaucoup plus que 100.
300 cochons.
Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Un cochon, il y a 5 litres de sang.
C'est ça, c'est ce calcul-là. Il y a environ 400 bêtes qui produisent du coup les 5000 kilos de boudin noir. On le rappelle. Dernière question pour finir cette émission. Mais qui est Noël Jamais? Est-ce que c'est le meilleur bouddhiste? Est-ce que c'est le plus gros mangeur de boudin? Est-ce que c'est le champion de France de cri de cochon 2023 ou alors est-ce que c'est le maire de Mortagne-au-Perche?
Pour la dernière, je suis sûr que non. En plus, c'est une dame, donc
Le meilleur mangeur de boudin.
Meilleur mangeur de boudin, tu dis Tati.
Ouais, moi, je dirais ça aussi.
Le meilleur cri de cochon, je pète un câble.
Eh ben, tu peux péter un câble, Tati. Noël Jamais.
Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça dans le journal. Oui.
C'est le champion de France de cri de cochon. Alors, j'ai pas trouvé le nom de celui qui a gagné
je
en 2024.
Technique,
en tout cas, Noël Jamais l'a gagné en 2023. Il y a des vidéos sur YouTube du concours où on le voit s'exécuter. Il mérite
surtout l'entendre.
Oui, on le voit.
Attends, mais ça veut dire que d'autres gens se sont exécutés à faire le
évidemment.
Cri de cochon. Il y a eu plusieurs cris de cochon, mais c'est insane.
Qui viennent de toute la France et il y a des jurys qui ont dit c'est Noël Jamais qui le fait le mieux. Mais il a un petit nez et tout, enfin c'est un nez de cochon.
À quel moment on se dit lui c'est un cochon?
Mais non.
Tu le mets dans un troupeau.
Justement, c'est assez impressionnant. Donc franchement, tu mets dans un troupeau bien déguisé. C'est un cochon.
D'accord.
Mais est-ce qu'ils ont admis un cochon au concours?
Oui.
C'est un peu de la triche. C'est du dopage, ça.
C'est du dopage.
T'imagines, le cochon, il fait moins meilleur.
Il gagne pas, le cochon. Incroyable. J'en ai fini pour mes questions. La foire au boudin, est-ce que tu connais les dates pour l'année prochaine?
Moi, je les ai, les dates, d'ailleurs.
Alors, sors-nous les dates.
En général, c'est au mois de mars.
C'est au mois de mars.
Mais j'ai
c'est
pas
le
les...
13, 14 et 15
voilà.
mars.
En général, c'est toujours à cette époque.
Et d'ailleurs, si vous souhaitez y participer, il y a le vendredi un dîner-spectacle.